journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Bagarre générale dans la cage en verre, scène surréaliste hier à la cour d'appel de Paris. Les accusés explosent en plein verdict du jamais vu en 25 ans de carrière pour l'un des avocats. Dans le box, 13 jeunes accusés d'avoir brûlé des policiers à Viry-Châtillon en 2016. Entre 6 et 18 ans de prison pour 5 d'entre eux, les 8 autres acquittés. Nous étions sur place. Compte rendu dès le début de ce journal. La France sort le bouclier contre les variants. Les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, mais aussi de Guyane, seront isolés pendant 10 jours avec contrôle des forces de l'ordre. Une pétition des profs et des parents d'élèves avant la reprise des cours. Pour de meilleures conditions sanitaires, ils veulent plus de tests et plus de ventilation. Et puis aussi le professeur Fourtillant, ses essais thérapeutiques sauvages, incarcéré à Paris. La Russie qui avance ses pions dans l'ombre au Karabakh. Et puis les sports, un maillot de Maradona aux enchères, le tennis aussi, duel de la jeune génération, Tsitsipas contre Rublev, Masters 1000 de Monte Carlo tout à l'heure.
Les invités à partir de 8h20, ils seront deux. Philippe Collin pour sa série de podcasts France Inter intitulée Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais. Invité également Nathalie Petitot, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Avignon.
France Inter.
Des policiers brûlés dans leur voiture au cocktail Molotov, dont deux grièvement. C'était il y a 5 ans à Viry-Châtillon. Verdict cette nuit donc de la cour d'appel de Paris. 8 acquittés et 5 jeunes condamnés à des peines de 6 à 18 ans de prison. Verdict plus clément qu'en première instance. Mais après 14 heures de délibération et 6 semaines d'audience à huis clos, l'ambiance était survoltée hier soir. La présidente a même dû s'interrompre pendant une dizaine de minutes. Scène rarissime que cette bagarre générale dans le box des accusés. Ariane Grissel.
Les mots de la présidente ont eu l'effet d'une étincelle sur un box des accusés explosif. À peine la dernière peine prononcée, l'un des 8 hommes jugés détenu laisse éclater sa colère, en vient aux mains avec les gendarmes, vite rejoint par les 7 autres. Bagarre générale et scène surréaliste dans cette cage de verre de quelques mètres carrés. Les avocats courent en panique. Côté public, des familles crient, pleurent, s'opposent aussi physiquement aux forces de l'ordre, jusqu'à évacuation de la salle. Du jamais vu en 25 ans d'assises, souffle un avocat. Les policiers, partie civile, accuse le coup. Laurent Franck Liénard est l'un de leurs conseils.
Plusieurs personnes ont été acquittées, c'est la justice. Nous n'avons pas à commenter une décision de justice. En revanche, les peines prononcées, 6 ans, 8 ans, pour avoir tenté de tuer des policiers, pour les avoir regardés brûler en rigolant, c'est insupportable.
La défense, elle, dénonce une enquête uniquement à charge, biaisée, défaut en écriture. Le client de Sarah Mogé-Poliac a été à nouveau acquitté, mais le verdict laisse un goût amer à l'avocate.
On a été amené à découvrir, en visionnant les gardes à vue, ce qui s'est passé. Il va falloir comprendre comment on peut écrire noir sur blanc qu'il a participé, quand à 8 reprises, le témoin principal de l'accusation vient en réalité dire qu'il n'a pas participé. Il y a eu effectivement un très grand nombre d'acquittements. La difficulté, c'est qu'il reste des innocents dans ce box.
L'avocate annonce vouloir saisir l'IGP dans ce dossier, comme d'autres de ses confrères.
Ariane Grissel.
C'est la nouvelle mesure anti-Covid du gouvernement.
Anti-variant même, pour être précis. Désormais, les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, mais aussi de Guyane, seront isolés pendant 10 jours. Avec cette fois, contrôle des forces de l'ordre. Fini la déclaration sur l'honneur. Une adresse de quarantaine avec un test PCR négatif de moins de 36 heures sera même exigée à l'embarquement. Nouveau tour de vis aux frontières, donc, et qui entre en vigueur pleinement le week-end prochain. Les vols avec le Brésil restent quant à eux suspendus jusqu'à vendredi. Sur le front de la vaccination, le gouvernement maintient le cap. 12 millions de Français vaccinés à ce jour, dont 4,5 millions avec 2 doses. Et l'ouverture, depuis hier, de créneaux d'urgence pour les professions les plus exposées. Les enseignants, les policiers ou encore les assistantes maternelles de plus de 55 ans. De l'AstraZeneca essentiellement, mais pas de quoi faire fuir ces candidats à Olivet, près d'Orléans. Reportage Marine Protet.
Comme Serge, 55 ans, il est surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Blois.
On a eu des cas de Covid-19 déclarés sur notre établissement. On est forcément inquiet. J'ai un de mes collègues qui travaillait sur la prison d'Orléans-Saran, avec qui j'ai travaillé des années. Il est décédé du Covid-19. C'est une personne qui avait mon âge, une personne qui avait une très bonne santé.
Un profil similaire à celui d'Étienne, enseignant dans un lycée d'Orléans, il se sent particulièrement exposé au virus.
On prend les précautions, mais bon, faut toujours répéter aux élèves de mettre les masques. Enfin, on est quand même en contact direct avec les jeunes. Donc c'est vrai que moi, je suis content, oui, ça me rassure. même si c'est de l'AstraZeneca, je pense qu'il vaut mieux être vacciné que courir le risque d'attraper la Covid-19, c'est quand même assez grave.
C'est exactement le message que le docteur Élise Évrard essaie de faire passer, parce que seuls 75 des 500 créneaux ouverts à Olivier ont été réservés.
Il y a un gros frein, les gens ont peur des thromboses, ont peur des effets secondaires, des syndromes grippaux post-vaccinaux, et se disent que l'autre vaccin il est meilleur, donc on va attendre.
Mais pour Florence, 55 ans, pas question de patienter.
Je suis assistante maternelle, donc je m'occupe d'enfants à domicile. Je me protège en fait, pas spécialement pour mon métier, mais aussi pour les gens que je côtoie. Ma famille, parce que j'ai des petits-enfants, donc je pense qu'avec le vaccin, on pourra peut-être plus les prendre dans nos bras et les embrasser.
Espoir partagé par ces quelques personnes âgées venues sans rendez-vous pour profiter des créneaux encore libres.
Marine Proté, France Bleu, Orléans, on évoquait dans ce reportage les cas de thrombose, 23 à ce jour répertoriés en France sur plus de 2 700 000 injections. De nouveaux cas qui concernent cette fois autant les hommes que les femmes, des patients plus âgés aussi de plus de 55 ans. Le risque pour autant reste très faible, rappellent les médecins, 1 pour 100 000, du même ordre de grandeur que par exemple le risque de se faire foudroyer. Confinement plus vaccination, la stratégie porterait-elle enfin ses fruits? La situation épidémique se stabilise, le nombre de malades en réanimation diminue légèrement, même s'il reste encore très haut, sous la barre des 5 900 patients, peut-être le début d'un commencement d'amélioration. En tout cas, Emmanuel Macron prépare le terrain. Réouverture progressive du pays d'ici un mois, les terrasses et les musées d'abord. Pas encore de confirmation ni de calendrier officiel. Une certitude en revanche, les élèves retourneront bien à l'école le 26 avril pour les maternelles et les primaires, le 3 mai pour les collèges et lycées. Pas de quoi rassurer enseignants et parents d'élèves qui demandent de meilleures conditions sanitaires dans une pétition en ligne. Plus de 44 000 signatures à l'heure où nous parlons. Il faut, disent-ils, que le gouvernement anticipe davantage et ils ont aussi des solutions dans leur besace, Sonia Princey.
Les signataires de la pétition réclament de mettre à profit ces jours de vacances pour organiser la reprise dans les établissements. Des mesures doivent être actées dès maintenant, exemple avec Catherine Navbekti, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SGEN-CFDT.
L'idéal serait de pouvoir faire des tests avant la reprise pour s'assurer qu'en tout cas celles et ceux qui sont porteurs du virus détectables par les tests ne reviennent pas en collectivité tant qu'ils sont positifs et qu'on organise leur accompagnement scolaire même si leur classe reprend. Et par ailleurs, il y a d'autres mesures à prendre. C'est l'installation de capteurs de CO2 pour s'assurer de la qualité de l'air et ventiler ou faire sortir les élèves en extérieur si on constatait qu'il y avait trop de concentration de CO2 et donc un air pas suffisamment renouvelé.
Anticiper est absolument nécessaire selon Rodrigo Arenas, le président de la Fédération de parents d'élèves FCPE.
La gestion de l'école sous Covid se fait souvent dans la hâte, dans la précipitation, sans anticipation, mais surtout sans moyens supplémentaires pour que la scolarité puisse se faire au mieux dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous souhaitons que le ministère anticipe en écoutant pour faire en sorte que l'école se passe au mieux dans l'intérêt des enfants et dans cet intérêt seulement.
Le ministère a prévu des réunions avec les organisations syndicales en milieu de semaine prochaine.
Sonia Princey, lui, on l'a vu récemment dans le documentaire Hold Up, la thèse du grand complot sur l'épidémie, le Covid, disait-il face caméra, fabriqué par l'Institut Pasteur. Le professeur Jean-Bernard Fourtillant, poursuivi pour essais thérapeutiques sauvages à l'abbaye de Sainte-Croix, près de Poitiers, a été interpellé jeudi dans le Cantal, on ne l'a appris qu'hier, transféré et incarcéré à Paris pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Pendant près d'un an, Jean-Bernard Fourtillant a expérimenté des patchs à la mélatonine sur près de 400 malades d'Alzheimer ou de Parkinson. Rappel des faits avec Clémence Gourdon-Négrini.
Entre 2018 et 2019, le professeur Fourtillant leur appliquait un patch composé de mélatonine supposé les guérir de leur maladie. Ces patients devaient arrêter leur traitement sans en parler à leur médecin. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait alors parlé d'un véritable scandale. Mais malgré l'interdiction faite à cet ancien pharmacien de poursuivre ses essais sauvages, il avait continué de solliciter des malades, leur réclamant des dons et leur promettant que des patchs serait distribué en pharmacie et remboursé par la Sécurité sociale. C'est ensuite la justice qui s'en mêle. En mars 2020, le professeur est mis en examen. Mais là encore, il continue de faire prospérer son affaire. Cette fois, c'est la pandémie de coronavirus qui sert de prétexte à ses demandes de dons. En parallèle, il fait parler de lui dans le documentaire en ligne Hold Up qui prétend raconter l'histoire secrète du coronavirus. Jean-Bernard Fourtillant y affirme notamment qu'il a été fabriqué par l'Institut. l'Institut Pasteur.
Clémence Gourdon-Négrini.
L'actualité, c'est aussi la Russie qui s'impose peu à peu au Karabakh, 5 mois après la capitulation de l'Arménie.
On parle beaucoup des troupes russes massées aux frontières de l'Ukraine qui inquiètent Européens et Américains. Une invasion serait une ligne rouge, affirme encore Emmanuel Macron dans une interview à la chaîne américaine CBS qui sera diffusée dans la journée. Mais beaucoup moins de ce qui se passe dans le Karabakh. Pourtant, dans cette région, les Russes avancent là aussi, mais à l'abri des regards. Construction de base, matériel militaire, le russe imposé comme langue officielle et interdiction d'entrée pour les journalistes étrangers. Bastien Bory est sur place à Yerevan pour France Inter.
À Stepanakert, les Russes ont pris leur quartier d'hiver et ils comptent bien les garder pour quelques saisons encore, sans que cela ne soit raconté outre mesure.
Il faut qu'il y ait un storytelling qui soit que dans un sens, c'est-à-dire dans un sens pro-russe.
Morgane Bonin écrivait dans les colonnes de Marianne pendant et après la guerre. Soudain, pour elle comme pour tous les autres correspondants, la procédure a changé aux frontières du Karabakh. Plumes, caméras et micros étrangers n'entrent plus.
Il y a une grosse partie de la communauté internationale qui va se désintéresser de ce qui s'y passe, quoi. Et là-dessus, c'est quelque chose qui leur fait peur, même au sein de l'administration et de l'État du Karabakh. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu pris en otage de la situation, quoi. Ils n'ont pas le choix.
À tel point que cette journaliste a quitté l'Arménie.
Je trouve ça assez décevant et aussi en même temps triste.
L'organisation Reporters sans frontières appelle l'ONU à faire respecter le droit d'informer, mais difficile d'y croire. D'ailleurs, quand on l'interroge, le défenseur arménien des droits humains botte en touche.
La délivrance des visas de presse n'est pas supervisée par les Russes. En tout cas, pas la décision initiale. Mais sachez que votre travail pendant la guerre a été très important pour nous.
Un à un, les reporters étrangers s'en vont. Pendant ce temps, le Premier ministre Nikol Pachinian le répète, l'Arménie fragilisée veut encore plus de soldats russes sur son sol.
Reportage à Yerevan de notre correspondant. Ça craque entre le gouvernement et les magistrats. Dans l'affaire des fadettes, le Premier ministre, après le refus du Conseil supérieur de la magistrature vendredi, est revenu à la charge hier. Jean Castex demande à nouveau l'ouverture d'une enquête sur d'éventuels manquements déontologiques du vice-procureur du parquet national financier. Enquête lancée à l'origine par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en septembre. Le PNF, mis en cause pour avoir épluché des fadettes afin d'identifier la taupe qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute dans une affaire de corruption.
À 8h12 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Un grec contre un russe, la relève sur terre battue. Tsitsipas, numéro 5 mondial contre Rublev, numéro 8, c'est du tennis. C'est la finale du Masters 1000 de Monte Carlo tout à l'heure, 14h30. Pour l'un comme pour l'autre, la victoire serait une première. Le foot, la Ligue 1, le PSG va-t-il recoller à un point du leader lillois? On saura ça tout à l'heure. Match face à Saint-Etienne à 13h. Coup d'œil aussi sur la Coupe du Roi en Espagne. C'est la consécration après 2 ans de disette pour le Barça. Grand vainqueur après son match hier en finale face à l'Athletic Bilbao. On retiendra notamment ce doublé de Messi, mais aussi ce premier but signé Antoine Griezmann. Et le Français savoure, lui qui n'a pas toujours été soutenu cette saison et qui n'avait encore jamais soulevé le trophée en Espagne.
Ça fait 10 ans que je suis dans le championnat espagnol, j'ai pas gagné de Coupe du Roi. Pour le club, je pense que c'est un soulagement. Moi aussi, il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé. Des fois des commentaires négatifs justes, des fois injustes, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Donc voilà, très fier de l'équipe et maintenant on a un beau final de championnat joué.
Voilà Antoine Griezmann, on reste sur la planète foot dans Esprit Sport ce matin avec un maillot en or, littéralement, puisque c'est le premier porté par Maradona en Coupe du Monde, mis aux enchères. Il faut dire que depuis sa mort, tous les objets qu'il a pu toucher de près ou de loin partent comme des petits pains. Bonjour Camille Hupenoir.
Bonjour Hélène.
On peut parier gros que ce maillot de la sélection argentine, porté par le gamin en or, El Pibo del Oro, lui aussi va s'arracher.
Oui, porté par Diego Maradona lorsque la star a fait ses grands débuts en Coupe du Monde, il n'avait que 21 ans, c'était en 1982, un match de l'Argentine contre la Belgique. La rencontre n'est pas restée dans les annales, mais Maradona, lui, allait devenir l'une des plus grandes stars de l'histoire du foot. Alors ce maillot est très symbolique, explique à Reuters l'un des responsables de la vente.
Il n'était alors pas la légende qu'on connaît aujourd'hui. De nombreuses personnes le découvraient pour la toute première fois. Ça a lancé en quelque sorte sa carrière internationale, qui l'a emmené jusqu'au titre en Coupe du Monde en 1986. C'est un maillot unique, comme on n'en avait encore jamais vu dans des enchères publiques. Et difficile de dire si on en verra d'autres après.
Un maillot unique aussi parce qu'il est signé de la main de Maradona. En fait, à la fin de la rencontre, la tunique est récupérée par l'entraîneur argentin qui la donne à un de ses amis, un journaliste. Et plus tard, ce journaliste parviendra à obtenir l'autographe de Maradona directement sur le maillot, prix estimé par les experts au minimum 125 000 euros.
Un prix élevé, car ainsi meurent les légendes. Maradona disparu, on peut le rappeler, en novembre dernier à l'âge de 60 ans.
Et tous les biens qui lui ont appartenu, surtout les maillots, attirent les collectionneurs depuis sa mort. La preuve avec celui que Maradona portait en 1986 lors de sa fameuse main de Dieu contre l'Angleterre. C'est en quart de finale de Coupe du Monde. Il marque deux fois le but du siècle, mais aussi ce célèbre but de la main. Un adversaire anglais, Steve Hodge, avait récupéré le maillot et sa vie est devenue un petit peu un enfer après la mort de Maradona. Des journalistes, des collectionneurs, beaucoup de gens se sont intéressés au maillot. Un expert l'a même estimé à 2 millions de dollars. Steve Hodge a reçu des coups de téléphone en pagaille. Il a dû faire une mise au point. Non, le maillot n'est pas à vendre. Et il a ajouté ce petit conseil un petit peu agacé. Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à aller au musée du foot de Manchester.
Ben oui, ça coûte peut-être un peu moins cher aussi. Merci Camille Penoir pour l'Esprit Sport ce matin. Enfin, dernier mot, car elles brillent, les joueuses de l'équipe de France de rugby. 56 à 15, ça s'appelle une raclée. Les Bleus ont battu les Irlandaises hier et partent en finale du tournoi des Six Nations. Ce sera samedi prochain face aux Anglaises.
Le journal d'Hélène Roussel, le temps.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Avec une relative douceur par l'ouest, Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, le soleil le plus franc sera pour la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne, de la Normandie au Hauts-de-France et pour le Golfe du Lion, Mistral et Tramontane vont rester sensibles. Des Ardennes au centre et sur le Massif central, l'ambiance sera beaucoup plus variable. Enfin, du Grand Est en descendant vers la Corse, des averses vont se déclencher dès la mi-journée avec des coups de tonnerre de la Provence à la Corse et de la neige au-dessus de 1200 mètres d'altitude. De faibles gelées vers 0 moins 2 degrés émaillent à la fin de la nuit sur la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le centre Val-de-Loire et en Rhône-Alpes. Mais à partir de demain, les gelées sous abri vont totalement disparaître et les températures diurnes vont progressivement remonter en début de semaine. Une hausse des valeurs que l'on va déjà remarquer aujourd'hui sur la moitié ouest du pays. Avec 18 degrés cet après-midi à Bordeaux, Agen, Montpellier et Perpignan, il fera 17 à Cognac, 15 à Nanterre et 12 à 14 sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski, Météo France.